Radio Kapi.
Début ce lundi de la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces dirigées par des intérimaires. Quelles sont les attentes des populations des provinces concernées? Vous entendrez celles de la Tchopo et du Congo central. Reprise ce lundi de la grève des enseignants du primaire affiliés au syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC. Les promesses faites par le gouvernement relatives à la majoration des salaires des enseignants du primaire dès la fin du mois d'avril dernier n'ont pas été tenues, affirme le CINEP. Docteur Mukendi Jean est notre invité ce matin. Le médecin directeur adjoint du PEV au ministère de la Santé parlera du projet de renforcement de la vaccination de routine dans les zones de santé de Kindu et de Kibombo au Maniema. Bonjour à tous. Début, c'est lundi 2 mai de la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Cette campagne électorale ira jusqu'au 4 mai courant, soit deux jours avant l'élection prévue le 6 mai. Ces provinces se situent aussi bien à l'est qu'à l'ouest et au centre du pays. Dans la province de la Tchopo, située dans l'est du pays, l'Assemblée provinciale a publié le week-end le calendrier de présentation des programmes des sociétés des candidats gouverneurs. Quelles sont les attentes de la population de la Tchopo par rapport au futur gouverneur de cette province? Suivez ce reportage de Jacques Moukonkolé.
Pour la plupart des Boyomés interrogés, la Tchopo a beaucoup souffert et ne fait que patauger. Il faudrait que les députés provinciaux puissent mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. Ingénieur Ikande Ikande est l'un d'eux.
Qu'ils nous choisissent quelqu'un qui aura vraiment la vision du développement de la Tchopo. Mais si c'est quelqu'un qu'on pourra voter, c'est donné pour défendre les intérêts de la Tchopo.
Le même point de vue est partagé par le journaliste Isaac Kingombe d'une radio évangélique locale.
Que nos députés puissent choisir selon l'intérêt général. Qu'ils ne se focalisent pas sur les biens matériels et puissent mettre un accent particulier sur un programme qui viendra transformer la province.
Cependant, bien d'autres boyaux mais reste sceptique quant au décollage de la province, puisque selon eux, habitués à la corruption, les députés provinciaux ne vont pas louper cette occasion pour se refaire à la santé financière. Le syndicaliste Joël Itete Bobina est de ceux-là.
Je suis très sceptique et je regrette beaucoup parce que quand on envoie des gens, c'est pour qu'ils aillent faire quelque chose pour l'intérêt de la population. Mais jusque-là, ce que nous vivons dans la Tchopo, c'est comme s'il n'y avait rien.
Le souhait des Boyomés est de voir les élus porter à la tête de cette province un candidat ayant un esprit de développement de cette entité, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Dans la province du Congo central, les futurs gouverneurs et vice-gouverneurs seront choisis parmi les 22 candidats en lice. Pour les habitants du Congo central, les futurs dirigeants des 7 provinces doivent connaître le Congo central et les besoins de sa population. Ils doivent également être redevables à la population et non pas aux tierces et aux partis politiques. C'est en tout cas l'avis des coordonnateurs de la société civile des différentes entités de cette province. Ils se sont confiés à Nana Purichmambu.
Dans le Congo central, doit avoir des réponses aux problèmes et préoccupations du Congo central. Être redevable à la province. Un gouverneur qui doit dire non lorsque les intérêts du Congo central sont mis en jeu. Être un rassembleur de filles et fils du trois anciens districts. Être souple et collabore parfaitement avec la société civile et toutes les parties prenantes. Être un bon gestionnaire qui ne sera pas sous les injonctions des partis et regroupements politiques.
La meilleure autorité, c'est celle-là qui va reconnaître toute la province, qui ne va pas être un gouverneur de Matadi ou de sa ville d'origine. Qui, nous, à Mwanda, depuis que nous existons, nous n'avons pas encore vu un gouverneur qui a fait un bon geste à Mwanda, sauf une donation de dernière minute.
Nous aimerions que le gouverneur qui sera élu ait le profil d'un rassembleur, de ne pas être conflictuel, qui ne vienne pas avec le règlement de compte et qui ne soit pas trempé déjà dans les détails. détournement des fonds, que les honorables députés sachent corriger les erreurs du passé parce que la province a tellement reculé.
Au Kasaï oriental, le secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante et la police nationale congolaise ont sensibilisé le week-end les candidats gouverneurs ainsi que leurs mandataires autour des dispositifs sécuritaires et électoraux à observer strictement. C'était au cours d'une grande rencontre présidée par le commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise. Esther Dalafina nous fait le point.
Le commissaire provincial de la PNC, colonel Paul Lukandula, s'est adressé aux candidats gouverneurs et à leurs mandataires autour de quelques dispositifs sécuritaires pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
Le 2 jusqu'au 4, vous avez droit à faire votre campagne dans l'hémicycle. Ceux qui sont comme sympathisants doivent aller avec vous dans la discipline. Que chaque candidat sensibilise sa base pour ne pas troubler l'ordre public. Les jours de l'élection, la police demande à ce que la population reste dans la maison. Nous allons vous donner la garde, la sécurité gratuite puisque le service de la police est gratuit.
Nicolas Kalambayi, secrétaire exécutif de la CENI, a lu quelques textes de la loi électorale relatifs à la campagne électorale, au vote ainsi qu'aux voies légales de contestation des résultats.
Nous allons accepter les observateurs nationaux, internationaux, les journalistes, porteurs de macarons. Ce jour-là, pas de port d'uniforme d'un parti politique ou d'un candidat. Enlevez vos logos, effigies sur le lieu de vote. 24 heures avant pour que le lieu-là reste neutre. La loi refuse le téléphone dans la salle. Toute réclamation peut être adressé à la cour d'appel.
Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec les élections en RDC, vous le savez, depuis quelques semaines, la proposition de loi électorale est à l'examen à l'Assemblée nationale. Radio Okapi débute cette semaine une série de productions pour aider ses auditeurs à cerner les vrais enjeux des différentes innovations contenues dans cette proposition de loi sous examen. Dans ce premier numéro, notre reporter revient sur la problématique de la suppression du seuil de représentativité et son remplacement dans un système de recevabilité des listes électorales à 60% de représentativité nationale. Qu'est-ce que ce nouveau système a pour avantage par rapport au système retenu dans la loi de 2006-2011 ainsi que celle de 2018, Michel Kifindangoy?
L'introduction du seuil de 1% dans la loi de 2018 visait à limiter des milliers de candidatures pour 500 sièges législatifs par exemple et promouvoir des coalitions fortes en lieu et place des partis dont le nombre est passé de 600 à plus de 1000 entre 2006 et 2011. Cependant, ce système a entretenu l'opacité dans la attribution des sièges et mérite d'être supprimé, soutiennent plusieurs députés. Emery Okunji.
Nous devons avoir des élections qui nous amènent la paix. C'est pour cette raison que nous avons conseillé à nos collègues d'extirper de la loi ce qui a été comme une pépinière de la fraude électorale, notamment le seuil de représentativité.
Que propose donc la loi électorale du G13 à la place du seuil de représentativité? Jacques Joly.
Nous supprimons le seuil d'attribution des sièges pour prendre le seuil de recevabilité. Désormais, pour qu'une liste soit recevable, il faut aligner plus ou moins 60% de sièges à pourvoir, c'est-à-dire plus ou moins 300. À partir de ces critères, nous allons atteindre le même objectif.
Ce nouveau système amènera des partis et regroupements forts et limitera le nombre des candidatures fantaisistes, ajoute Jacques Joly.
Vous le savez peut-être, la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï s'est clôturée samedi à Lubumbashi. Un des responsables de la communauté katangaise présent à cette cérémonie se dit optimiste quant à la mise en pratique des différentes recommandations de la conférence pour qu'enfin le vivre ensemble soit une réalité entre différentes communautés de ces provinces. On écoute Max Pandé, président de l'association socioculturelle Luanzo Lua Mikuba.
Avant tout qu'on puisse prioriser les résolutions à court, moyen et long terme. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a pris à bras le corps le problème au niveau des provinces du Grand Kasaï, dans le Grand Katanga où nous recevons beaucoup de déplacés. Je crois qu'il va mettre les moyens en termes des ressources humaines, matérielles et financières avec l'apport de tous les gouverneurs. Parce que vous voyez très bien que la cause du départ de nos frères, c'est beaucoup plus socio-économique. Et quand ils sont aussi dans le Grand Katanga, il y a aussi un problème socio-économique, socio-politique et socio-sécuritaire qui se pose avec l'apport des différents gouverneurs. Je pense que les choses vont aller mieux. De telles initiatives, il faudrait que nous tous puissions les accompagner pour que le vivre ensemble puisse être une réussite totale dans notre pays.
Du côté de la communauté kassaïenne, c'est le même sentiment. Le vivre ensemble est possible avec l'implication de tous, affirme François Kabasélé, responsable de la coordination de communautés du Grand Kassaï.
Les travaux se sont déroulés en toute sérénité et en toute positivité. Nous espérons que cette fois-ci, il y a toutes les chances, vu l'implication de toute la nation à cette histoire de vivre ensemble, il y a toutes les chances que les uns et les autres puissent revenir au bon sens et vivre comme cela a été souhaité.
Ce dossier est signé Jean Gandou. Consultation de Nairobi, les délégués de 18 groupes armés de deux Kivu et de l'Ituri qui y ont pris part sont de retour au pays depuis le week-end. Lors de la clôture mercredi dernier, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue kényan Uhuru Kenyatta ont appelé ces derniers à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. Bernard Nyangi revient sur le condensé de ces messages.
La RDC est potentiellement riche, a dit le président Kenya dans son mot de clôture de ses premiers pourparlers mercredi. Uhuru Kenyatta déplore que, depuis l'indépendance, les cycles de violence empêchent les Congolais à bénéficier largement de leurs richesses. Celui-ci souhaite voir la restauration de la paix en RDC pour le succès du plan de la communauté des pays d'Afrique de l'Est à unir l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et pour sa part, le président congolais, lui, a appelé les groupes armés à adhérer au processus PDDRCS. Félix Tshisekedi, dans ses propos recueillis par la presse présidentielle.
Nous ne devons pas nous faire la guerre pour des questions de terre ou de communauté. Nous devons combattre toutes ces considérations ethniques ou tribales parce qu'elles nous empêchent de pouvoir réfléchir sereinement à notre développement. Aidez-moi à vous aider et vous serez entièrement satisfait de la reconversion qui vous attend à travers le processus de DDRCS.
Rappelons que le premier round de pourparlers du 23 au 27 avril a été facilité par le président kényan Uhuru Kenyatta en présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL, des États-Unis et de la France. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Je l'ai annoncé dans les titres, les enseignants du primaire des écoles publiques réunis au sein du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC, SINEP, ont décidé d'aller en grève dès ce lundi 2 mai. Décision prise et annoncée à l'issue de l'Assemblée générale de ce week-end à Kinshasa. Le SINEP affirme que les promesses faites par le gouvernement relatives à la majoration des salaires des enseignants du primaire dès la fin du mois d'avril n'ont pas été tenues. Leurs collègues, Nouvelle Unité, ainsi que les non-payés, ne sont toujours pas payés non plus. Suivez les propos du secrétaire général du SINEP, Ignace Mbala Keto, au micro de Noël Alouzitou.
Le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo était réuni en assemblée générale pour évaluer les accords de Mbuela signés entre les bancs syndicales des enseignants de l'EPST et le gouvernement au mois de novembre 2021. Le gouvernement avait signé de payer le deuxième et le troisième palier de l'enveloppe salariale de l'enseignant qui devrait être revu à la hausse de 370 000 à 800 000 francs, de payer toutes les nouvelles unités et tous les non payés. Ayant constaté après la paye que l'enveloppe est restée constante et qu'aucune nouvelle unité non plus un non payé n'a été servie jusqu'à ce jour, l'Assemblée décide de l'arrêt des services dans tous les établissements scolaires publics du primaire à partir de ce lundi 2 mai 2022 jusqu'à une date ultérieure. Que les parents gardent leurs enfants à la maison pour des mesures sécuritaires.
Actualité internationale. Au Tchad, la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a un an reporte l'ouverture d'un dialogue de réconciliation nationale avec les oppositions politiques et armées prévue le 10 mai à une date ultérieure, a annoncé hier dimanche le gouvernement. Il est temps de passer aux actes, il est temps de tenir la promesse de 100 milliards de dollars par an faite à Paris, a déclaré Antonio Guterres à Dakar dans une conférence à l'engagement pris par les pays développés, mais à ce jour non tenu d'accorder collectivement cette somme aux pays du Sud à partir de 2020 pour les aider à financer leur transition écologique et à s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique.
L'invité.
L'invité de la rédaction, c'est Dr Mukendi Jean, médecin directeur adjoint du PEV au ministère national de la Santé. Vu la persistance des épidémies malgré les multiples campagnes de vaccination dans cette province, une délégation de ce ministère est à Kindu pour chercher des solutions durables. Le week-end, cette délégation a présenté aux autorités politico-administratives le projet de renforcement de la vaccination de routine dans la zone de santé de Kindu et la zone de santé de Kibombo. Qu'est-ce que ce projet vise? Réponse avec Dr Mukendi Jean dans cet entretien.
Monsieur Mukendi Jean, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi vous êtes en ce moment dans la province du Maniema?
Oui, nous sommes venus dans cette province avec les partenaires, notamment le CDC Atlanta. Nous sommes venus pour présenter aux autorités politico-administratives, au cadre de la DPS et au cadre des zones de santé, un projet. Il s'agit d'un projet pour renforcer la vaccination de routine. Comme vous le savez, cette province, tout comme beaucoup de provinces de la RDC, font face à des épidémies. Épidémies de rougeole, de polio et dans d'autres provinces, nous avons des épidémies de fièvre jaune, il y a aussi Ebola. Et par rapport à toutes ces épidémies, en ce qui concerne le cas de la province du Maniema, nous sommes venus surtout pour voir dans quelle mesure, au-delà des interventions qui se déroulent présentement dans la vaccination, nous voulons implémenter un projet pour arriver à identifier tous les enfants qui n'ont jamais été en contact avec la vaccination ou qui ont été vaccinés mais qui sont incomplètement vaccinés pour arriver à les vacciner et contribuer à améliorer l'immunité de la population.
Quand est-ce que le projet en question va commencer et c'est là pour combien de temps?
Comme on l'a dit, c'est une première étape. Nous sommes là pour une semaine, rencontrer toutes les parties prenantes, notamment les autres partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF et tant d'autres qui sont sur terrain, rencontrer les acteurs des zones de santé et aussi dire que ce projet est orienté dans deux zones de santé. C'est un projet pilote. C'est l'étape d'information, c'est l'étape de pouvoir amener toutes les parties prenantes à s'approprier du projet et après il y aura des étapes qui vont suivre pour la mise en œuvre. Donc il s'agira un de faire une cartographie détaillée des populations, des communautés. De deux, c'est arriver à identifier, lister tous les enfants zéro dose qui n'ont jamais été en contact avec le vaccin ou les enfants sous-vaccinés. Et une fois que ce travail sera fait, nous allons maintenant voir quelles seront les stratégies et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour arriver à vacciner tous ces enfants. Le projet a déjà commencé. On suppose que le projet a démarré avec cette étape de sensibilisation de toutes les parties prenantes. Nous allons tracer le calendrier pour les prochaines étapes. Donc c'est un projet qui a commencé au mois de mars, qui va aller jusqu'au mois de octobre et des résultats de ce projet pilote, nous verrons la nécessité d'étendre ce projet dans l'ensemble des zones de santé ou dans d'autres provinces.
Projet pilote avec deux zones de santé déjà sélectionnées, dont la zone de santé de Kindu et la zone de santé de Kibombo. Pourquoi le choix de ces deux zones de santé seulement?
Le choix a été basé sur un, le grand nombre d'enfants non vaccinés. Nous avons aussi regardé les aspects des épidémies qui sévissent dans ces zones de santé. Nous avons aussi regardé la faisabilité, la proximité de ces deux zones de santé et aussi avoir une zone de santé urbaine, une zone de santé rurale et faciliter aussi le suivi de ce projet.
Et dans la zone de santé de Kailo, il y a un cas de poliovirus sauvage dont les souches n'est pas encore découvert au monde. Que pensez-vous de ces cas?
Pour ce cas, effectivement, nous sommes là. On ne va pas se limiter uniquement au projet pour lequel nous sommes venus. Nous allons également suivre la situation de près dans cette zone de santé de Kailo avec la DPS et aussi les cas des zones de santé pour voir quelles sont les interventions qui sont déjà mises en place dans cette zone de santé, à savoir le paquet d'interventions, quels sont les problèmes spécifiques et s'il y a des gaps à couvrir, nous sommes disponibles, nous sommes là pour suivre de près cette question. Et par rapport à cette situation, comme vous le savez, d'ici 2 semaines, il y aura une riposte contre les épidémies de polio qui sévissent dans cette province et les provinces tout autour du Maniema.
Dans tout ça, qu'est-ce que vous visez?
L'objectif est d'atteindre, de vacciner tous les enfants où qu'ils se trouvent et les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. C'est arriver à ne plus avoir des épidémies comme nous le vivons présentement, c'est-à-dire améliorer l'immunité collective de la population, protéger l'enfant congolais.
Monsieur Mukendijan, merci à vous.
C'est à nous de vous remercier, madame.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.